Tribu, Laurent Caspary.
Bonjour, bienvenue dans Tribu. Plus que jamais, nous sommes dans une société où l'image joue un rôle primordial. Il y a les images des actualités qui nous marquent et qui nous choquent parfois et qui peuvent soulever les foules. Il y a les images virales, celles qui flambent sur le web via les réseaux sociaux et qui font le tour du monde avant d'être remplacées par un flux continu d'autres images. Il y a celles qu'on regarde consciemment et avec attention et toutes celles qui marquent notre inconscient sans qu'on y prenne garde. Celles qu'on voit sans voir, celles qui influencent nos enfants dans leur vie actuelle et future. Les images sont innombrables et ce n'est pas prêt de changer. Alors sommes-nous armés pour les intégrer, pour les comprendre, pour s'en protéger, le cas échéant? On va en parler de ces images avec vous, Eva Sarrou. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin depuis notre studio de Genève. Eva Sarrou, vous êtes responsable de projet à la Fondation Images et Société, une fondation qui précisément décode les images qui nous arrivent en masse, comme je viens de le dire. Eva Sarrou, vous avez évolué depuis longtemps dans les musées, les écoles, les entreprises. Peut-être pour poser un tout petit peu le cadre et comprendre peut-être ce que fait cette fondation dans laquelle vous travaillez, c'est qu'est-ce qu'elle fait quand je dis qu'elle décode des images, c'est-à-dire elle va dans les écoles, elle va dans des lieux pour essayer de faire comprendre les images?
Alors, on propose des pistes. Les gens peuvent venir dans notre arcade à Genève, au 100 rue de Carouge, où nous, on se déplace également. On va dans des classes, on va dans des hautes écoles pédagogiques, dans des maisons de quartier, aussi à Cité Senior en septembre. On a différents publics, différentes institutions avec lesquelles on collabore. Et l'idée, c'est pas tant de discourir sur l'image, mais de vraiment proposer des questionnements socioculturels, des pistes d'entrée multiples pour que les gens puissent après cheminer eux-mêmes.
Oui, alors si je regarde sur les thèmes, hein, pour rester quelques instants encore sur votre fondation, c'est identité, sexisme, racisme, pub, mode, marque et développement durable, séduction et relationnel, estime de soi, bref, il y a toute une série de thèmes qui sont vraiment des thèmes de société. Il y a un besoin de décoder précisément toutes ces images?
Alors, il y a certainement un besoin puisque on le voit dans les études psychosociales qui sont publiées régulièrement par l'Office fédéral de la santé publique ou bien par l'OMS ou bien récemment l'étude qui a été mise en avant par Projuventut. Et ça continue, on n'arrête pas de voir que les jeunes, de plus en plus jeunes, ont mal à leur estime d'eux-mêmes. Ils se sentent complètement déboussolés par rapport aux médias, aux modèles glamourisés et à ces modèles de performance. Donc il y avait une statistique récente, relativement récente, de 2010, qui parlait de 60% des jeunes, garçons et filles, insatisfaits de leur apparence physique et de leur performance. Donc ils se comparent, bien entendu, à des modèles qu'ils voient autour d'eux. Alors, c'est pas uniquement les images des médias, c'est également les images que des camarades mettent sur Instagram et ailleurs. Et c'est une pression sociale, hein, ça devient très complexe.
Les fameux réseaux sociaux. Alors, on va en parler de ces jeunes, notamment de la formation peut-être qui pêche ou qu'il faudrait avoir par rapport à toutes ces images. Peut-être premièrement, faisons un constat général. À notre époque, Eva Sarrou, c'est ce que je disais un tout petit peu en introduction, on n'a jamais eu autant d'images qu'aujourd'hui. On est vraiment dans une époque où on n'avait jamais vu ça, c'est-à-dire autant d'images. Il y a un article aujourd'hui qui est paru dans la presse, dans 24 heures notamment, sur un livre qui parle de la publicité. Il paraît qu'un adulte voit jusqu'à 10 000 images par jour, notamment de publicité.
Oui, les chiffres sont assez étourdissants. De toute façon, ce qu'il faut se rappeler, c'est que depuis les années 70, on a des moyens technologiques qui permettent une multiplication des images en couleur, des images en noir et blanc. Et ça, on ne l'avait pas avant. On avait des images dans la peinture, dans les dessins, mais on n'avait pas cette multiplication partout, constamment. Et c'est devenu très bon marché. Et on se photographiait pas avant autant. Alors, quand on regarde dans l'histoire, on s'aperçoit que, par exemple, l'apparition des miroirs meilleur marché, a déjà changé notre façon de nous regarder, hein, parce qu'avant, on avait le reflet dans l'eau et c'est tout. Et maintenant, on est constamment à se voir dans des miroirs, dans des photos, de se regarder sous toutes les facettes. La publicité nous invite aussi à nous regarder sous toutes les facettes. Et on se voit de plus en plus de l'extérieur, soi-même. Et on perd un peu ce ressenti intérieur. Et dans les ateliers, ce qu'on essaye de faire, c'est ce lien entre image extérieure et aussi l'effet qu'elles ont sur nous. Donc, d'éclairer par le décodage des images extérieures, on appelle ça le décodimage, on essaye de regarder, mais telle personne dans le groupe réagit d'une certaine façon à une publicité et à la même image, quelqu'un d'autre va réagir autrement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a des images intérieures, des repères intérieurs, des sensibilités aussi qui ont été activées. Et c'est ça qui est aussi intéressant d'aller éclairer. Mais c'est comme ça qu'on commence à parler d'estime de soi. Et qu'est-ce qui se passe ? Quels sont nos garde-fous, nos possibilités de nous renforcer ? Et où est-ce qu'on est plus affaibli ? Mais ça, chacun chemine dans un atelier.
Alors chacun a son vécu précisément, Eva Sarraud. Il y a toutes les images qu'on voit consciemment, qu'on peut dire « Ah, cette image m'a marqué, cette image, je l'aime, je ne l'aime pas, j'aime ce type d'image. » Ça, c'est ce qu'on voit et ce qu'on...
Oui, c'est un premier degré.
Voilà. Et puis, il y a toutes les images inconscientes. Vous disiez, on réagit différemment face à les images. C'est-à-dire qu'au fond, nous, on a quelque part une histoire avec certaines images qui sont pas forcément enregistrées consciemment.
Absolument. Et je dis que parfois, une image qui choque, c'est plus facile de gérer. Parce qu'on va en discuter, on va la regarder consciemment, on va l'étiqueter, on va en faire toutes sortes de choses. Alors que quand on réagit très fortement, on sait des fois pas à quoi on réagit. Et ça demande vraiment beaucoup de bienveillance envers soi-même et aussi de clairvoyance, d'honnêteté aussi, d'aller regarder ses fragilités. Voilà, et ça c'est très délicat des fois en atelier aussi. Donc c'est pour ça qu'on a aussi un garde-fou. Quand ça devient trop personnel, on retourne vers l'analyse des images. Donc on a toute une approche qui a été faite, en fait je devrais peut-être en dire un mot, on a des collections thématiques à la Fondation, parce que ça ne sert à rien de regarder qu'une seule image, vous n'avez pas la perspective. Quand vous avez une thématique, par exemple toutes sortes de visages, d'hommes, de femmes, des noirs, des asiatiques, les corps, des postures, vous pouvez commencer à voir des tendances et vous pouvez commencer à découvrir les stéréotypes. D'ailleurs les stéréotypes, on ne les voit presque plus parce qu'on y est tellement habitué. Et ceux-là nous mettent vraiment dans un carcan. Une femme sait très bien qu'il y a certaines postures, certains sourires qui vont mieux passer dans certaines situations. Les hommes doivent se profiler un petit peu plus carrés, plus rudes, plus forts. Ça, on l'intègre inconsciemment. Et quand on va voir les images, donc les collections thématiques, on découvre ces stéréotypes qu'on ne voyait plus et qui nous ont formés, qui nous ont éduqués. D'ailleurs, j'avais un ami qui disait toujours qu'on est éducastré quelque part. Mais il s'agit maintenant, dans un atelier, de redevenir conscient. Et quand on prend ces perspectives, à ce moment-là, on a un certain espace de choix. Voilà. Parce que si on voit qu'une image ou si on fait que réagir constamment, on n'a pas vraiment le choix. Et on est dans une société qui parle beaucoup de liberté, mais finalement, on a très peu d'espace de liberté qu'on s'accorde parce qu'on veut se faire aimer, donc on va plutôt se conformer. Ou alors être différent, mais d'une façon codée également. Donc cet espace de prise de conscience est primordial pour avoir un espace de choix. Et c'est important autant quand on éduque des enfants, quand on accompagne des enfants, que quand on est adulte soi-même, et que dans la profession, par exemple, on doit faire des choix. Notre exposition Eve et Adam des médias, ou bien on l'appelle des fois aussi les images mises à nu, puisqu'il y a beaucoup de nus, eh bien cette exposition, elle est née de ratés de publicité qu'avait connu une grande entreprise qui maintenant n'est plus aussi grande, c'est Nokia en Finlande, et c'est grâce aux outils que j'ai développés pour répondre à leur problème de raté de pub qu'est née cette exposition qui maintenant est utile à des gens dans des écoles. Voilà.
Mais donc, vous dites, Eva Sarraud, lorsqu'on est armé, lorsqu'on a passé par exemple dans vos ateliers et qu'on a appris à prendre conscience peut-être de ce rôle des images et peut-être des images qu'on avait intégrées auparavant, on est armé pour faire des choix, lesquels peut-être, alors classiquement la pub, on sera peut-être moins influencé, mais peut-être dans d'autres circonstances aussi.
Je pense que c'est un cheminement. À propos, je préfère parler d'affûter sa sensibilité. Mmh. Bon, c'est encore des termes guerriers, mais j'entends déguiser son attention, déguiser ses perceptions, son esprit critique. C'est ça qui est important, et de développer un dialogue avec soi-même, avec ses images intérieures et ses images extérieures. Et c'est quelque chose que nous proposons dans les ateliers, et au bout de 90 minutes, en général 60 à 90 minutes, les élèves me disent vraiment qu'il y a eu des déclics, qu'ils ne se rendaient pas compte que c'était retouché autant, que telle et telle chose les perturbait, etc. Il y a vraiment, ils me disent souvent, tiens, maintenant, je vais regarder autrement les images. Donc, il y a comme une prise de conscience par ces éclairages. Voilà. Et c'est utile dans le privé, que je dis, comme quand on est parent ou quand on a des décisions à prendre professionnellement.
Avoir conscience, c'est surtout un regard critique sur tout ce que l'on voit, être conscient du regard critique qu'on peut porter sur les images. Je parlais de votre fondation créée fin des années 2008.
Oui.
Voilà. Entre 2008 et 2015, les réseaux sociaux, ça n'existait pratiquement pas en 2008. Ça a explosé littéralement en 2015. On voit des images virales. Je prends une image, par exemple, la fameuse « Je suis Charlie », qui est autant un slogan qu'une image, mais qui a été balancée sur la planète entière en 2-3 heures seulement. J'imagine que ça change pas mal votre manière de travailler aussi. Comment est-ce qu'on réagit? On va parler des jeunes tout à l'heure, il y a évidemment les jeunes, mais pas seulement, parce que maintenant, pratiquement toutes les tranches d'âge sont sur les réseaux sociaux. Cette explosion d'images et surtout cette rapidité, cette viralité, est-ce que ça change quelque chose?
Bon, disons qu'il y a certains principes de base qui ne changent pas vraiment. C'est de prendre des perspectives, on peut le faire de toutes sortes de manières. Ce qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est qu'on demande aux élèves d'amener, ou aux étudiants, d'amener des images qu'ils ont eux-mêmes postées sur des réseaux sociaux, ou bien qu'ils ont remarquées sur des réseaux sociaux. Comme ça, on en discute et on a une certaine perspective. Et on leur demande aussi d'apporter des clips musicaux, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui influence fortement les jeunes. Parce qu'il y a la musique qui rentre d'une certaine manière, et puis l'imagerie qui rentre avec, dans le même flow, et on fait plus attention à la musique et les images rentrent inconsciemment. Donc je demande davantage maintenant aux élèves d'apporter du matériel qu'ils ont relevé. Mais la méthodologie sous-jacente, on commence par les émotions et ensuite on va aller comparer avec d'autres choses du même type. Enfin, il y a certaines méthodologies qui restent utiles, quel que soit le type d'image qu'on va regarder, qu'il soit fixe ou mobile, que ce soit sur des réseaux sociaux ou ailleurs. Et ce qui me paraît aussi important, excuse-moi, c'est vraiment de rester en contact avec les émotions. Parce que vous savez, dans la tradition de l'histoire de l'art, on analyse les images d'une manière beaucoup... Enfin, il y a une certaine méthodologie très utile. Mais quand on est avec des images médias, c'est important d'intégrer nos réponses émotionnelles. Et après, d'aller regarder, mais qu'est-ce qui nous a fait réagir comme ça? Et là, on va rentrer dans l'observation. Et ça, c'est une approche que j'ai développée parce que je travaillais avec des musées, avec des élèves. Et c'est une approche de terrain. Et c'est pas celle qu'on propose traditionnellement dans les écoles. Et ça, c'est aussi un élément important, c'est que ça fait une quarantaine d'années qu'on a ces nouvelles technologies, mais les approches pour analyser les images et pour nous proposer des repères sont restées vraiment liées à une autre époque. Et il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a aussi une autre chose qui me semble importante, c'est qu'il y a vraiment un problème de société qui se passe, un problème de carrément de santé publique, avec tant de jeunes qui se sentent pas bien. Les femmes se sentent pas bien non plus. On se sent complètement largué par tous ces modèles. On voudrait y ressembler, mais on sent bien que c'est impossible. C'est une bataille de Sisyphe. Donc voilà, il y a vraiment une méthodologie à développer et à intégrer. Et la plupart des adultes que je côtoie, même des enseignants, ont visiblement pas encore totalement compris. L'autre jour...
On minimise.
Oui, on minimise. Et l'autre jour, encore un enseignant me redemandait, un formateur même me demandait, mais au fond, ça sert à quoi d'inviter les jeunes à être critiques par rapport aux stéréotypes? C'est une question fondamentale. C'était donc une prise de perspective, mais je suis contente qu'il l'ait posé, cette question. Mais ça montre bien que les adultes sont dépourvus et se rendent pas compte eux-mêmes combien eux-mêmes sont mis à mal par les images et quel serait le cheminement pour aider les jeunes. On sait en théorie, mais qu'il faudrait faire quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi dans la pratique.
Les adultes d'aujourd'hui n'ont pas été formés comme il faudrait, comme vous l'appelez de vos voeux, former les jeunes aujourd'hui?
Oui, il y a vraiment une idée chez les adultes qu'il suffit de savoir. Voilà, on sait que c'est retouché, on sait que c'est impossible, que les jambes ont été allongées, mais ça ne suffit pas du tout, parce que même si on n'est pas dupe rationnellement, inconsciemment, il y a quelque chose d'autre qui se passe et on est dupé par notre inconscient.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui est en train de se passer, Vassaro, un espèce de ras-le-bol général? On voit poindre quelques initiatives. Je pense à la ville de Grenoble qui a dit on enlève les publicités, une partie des publicités de ces rues pour remplacer par des arbres parfois. Est-ce que là, c'est les premiers signes d'un ras-le-bol sociétal de trop d'images?
Il y a régulièrement des réactions. Il y a aussi dans le monde de la mode régulièrement des réactions contre les femmes trop, enfin les mannequins trop minces, trop maigre même. Et voilà, il y a des réactions de temps en temps, mais il faudrait que ça s'organise un petit peu plus fort. Et je parlais avec des personnes de Pro Juventute en leur disant que vous avez une campagne formidable, pourquoi ne pas joindre ça à une action ? Et tout à coup, ben, on se rend compte que on est disparate. Nous, les institutions, les groupements, les personnes qui voudraient faire quelque chose, on est chacun dans notre coin. Et il s'agit de, maintenant, je pense, organiser mieux ces ras-le-bol en quelque chose de plus constructif. D'ailleurs, la Fondation Images et Sociétés, qui pose la question « Quelles images est-ce qu'on fabrique dans quelle société ?», elle est née d'un ras-le-bol, de ma colère personnelle par rapport à des images. Vous avez demandé tout à l'heure quelles images vous ont marqué. Moi, c'était les images de la guerre du Vietnam, et je voyais les adultes qui ne faisaient rien. Ensuite, ça a été des images du monde qui étaient complètement pour moi catastrophique et caricaturale, qui ne correspondait pas au monde que moi je découvrais dans mes voyages. Puis ensuite, ça a été l'image de la femme qui est complètement grotesque. Et quand j'avais 18, 19 ans, déjà, j'étais sensible à ça. Et plus tard, ça a été l'image de l'homme, une grosse brute. Voilà. Donc, il y a tout ce questionnement et toutes ces colères, ces révoltes en moi qui ont mené finalement à des collaborations avec des gens dans des musées, dans des écoles, dans des institutions qui avaient aussi un questionnement. Et on a lié, en fait, on a lié nos expériences. Et je pense que ce mouvement de relier les bout de conscience, les éléments les personnes de conscience, il faut qu'ils se renforcent. Ça, c'est vraiment important. Et je pense que ça va se faire.
Il y a encore du travail à faire. On va en parler dans un instant, Eva Sarraud, de ce qu'il faut faire avec les jeunes. Nous sommes avec vous. Vous êtes responsable de projet à la Fondation Images et Sociétés. On va se retrouver après cette chanson chorale de Chercher le garçon. Elle est chantée par Scala et Colasny Brothers. C'est une chorale belge de 60 jeunes filles qui font des reprises. Et là, bien, c'est une reprise de Taxi Girl, Chercher le garçon.
Thank you.
Chercher le garçon interprété par la chorale Scala, c'est plusieurs dizaines de jeunes filles dirigées par les Kolasny Brothers. Nous sommes avec Eva Sarrou pour parler des images dans la société. Bah, puisqu'on parle de jeunes filles précisément, vous l'avez déjà un tout petit peu abordé dans cette première partie d'émission, Eva Sarrou. Les jeunes filles, premières victimes peut-être de ce matraquage qu'il y a eu sur la pub, sur l'image de la femme, notamment avec des maladies dont on parle souvent. Est-ce qu'on peut vraiment établir un lien entre les maladies comme l'anorexie, la boulimie, avec les images de la société? C'est souvent remis en question. Est-ce que c'est prouvé à votre connaissance?
Bon, quand j'ai travaillé avec un groupe du CHUV qui s'occupait de personnes avec des problèmes d'anorexie, et quand je travaille avec des personnes qui sont dans la santé et que je leur propose donc des outils de décodage pour aider à leur travail, on en discute clairement. Il y a une influence de ces images médias, ça c'est clair et net. Mais on les voit tous, ces images médias. Et encore une fois, il y a des gens qui ont des sensibilités particulières. Et là, il y a tout un ensemble de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Donc c'est encore une fois ce que je disais, c'est l'importance de ces particularités.
Alors la formation précisément, aujourd'hui, est-ce qu'on est un tant soit peu formé quelque part? Est-ce que dans le plan d'études romans, il y a quelque chose?
Dans le plan d'études romans, il y a plein de choses sur l'éducation aux médias, mais c'est vraiment pas une priorité, c'est un peu le parent pauvre. On est dans une éducation qui, ma foi, continue à donner la priorité aux chiffres, aux lettres, à l'analyse, donc encore une fois, à la tête, au rationnel. Et bien sûr qu'on essaye de former des citoyens, je suis pas là pour critiquer l'école, mais plutôt pour soutenir ces efforts. Simplement, je constate que c'est insuffisant. Je forme des gens qui sont dans l'éducation aux médias et je me rends compte, comme je disais tout à l'heure, qu'ils sont dans une tradition et qu'ils font souvent des choses très très intéressantes et bonnes. Hein. On a des collaborations, mais il y a une façon qui est nécessaire maintenant d'aller plus loin. Premièrement, d'aller plus profondément dans les questions sociologiques, dans les questions qu'on considère être dans le domaine privé, parce que l'estime de soi, c'est ça. Et il s'agit aussi de parler inconscient, etc. Et il s'agit de cheminer. Je pense que l'adulte doit prendre une position de cheminer avec le jeune et d'interroger et de ne pas prendre cette posture de je sais et vous ne savez pas. C'est d'ailleurs la posture qu'avaient constaté que les gens du CHUV, les gens qui sont dans la santé, ont souvent. On est un peu paternaliste, on donne des conseils et puis on pense que ça suffit de dire voilà, c'est retouché. Mais les enfants savent que c'est retouché. Mais quand je leur demande de me montrer comment c'est retouché, eh bien, que ce soit des enfants ou des professionnels de l'image avec lesquels j'ai travailler, on est des fois en mal de reconnaître exactement où et comment c'est retouché. On est donc même, avec des publicitaires qui ont fait de la pub, on est dans le monde des arroseurs arrosés. Donc vous voyez, c'est tellement difficile de repérer tout ça, il faut aller vraiment dans une exploration avec curiosité, avec une volonté de se connaître soi-même. Et vraiment de remettre en jeu ses repères. Et ça, dans une classe, c'est difficile. Donc en tant qu'intervenant extérieur, là on a des choses à apporter. Donc c'est dans le plan d'études romans, c'est dans les intentions, dans la pratique. C'est très très lent, très très lent. On a un rendez-vous encore prochainement avec le DIP, on espère qu'on va avancer encore d'un pas, mais c'est extrêmement lent. Or, avec l'avalanche d'images, avec tous les moyens qui sont mis en... avec tous les milliards qui sont dépensés pour la pub et pour influencer nos jeunes de plus en plus jeunes, eh bien, il y a vraiment quelque chose, je dirais, un antidote à développer de l'autre côté. Et oui. C'est pas encore en train de se faire.
Et quand vous dites que vous avez rendez-vous au DIP, on imagine que c'est du côté de Genève, oui. C'est cantonal, donc il faut faire un petit peu, prendre son bâton de pèlerin dans chaque canton, ça c'est le système helvétique qui le veut. Donc c'est pas gagné. Il y a tout ce qui doit se passer, peut se passer encore à l'école. Et puis il y a les parents, évidemment, parce que lorsqu'on parle d'éducation, on a tendance à se tourner très rapidement du côté de l'école, mais il y a évidemment les parents, lorsqu'il s'agit d'aborder un certain nombre de questions avec ses enfants, comme par exemple la sexualité. On sait qu'il y a, dans les images, il y a aussi tout ce qui est la pornographie, tout ce qui tourne sur Internet que les enfants vont avoir manifestement un jour ou l'autre, grâce à leur mobile maintenant, leur smartphone, c'est tellement facile. Là aussi, les parents, il faut qu'on arrive à les sensibiliser d'une manière ou d'une autre.
Oui, et puis j'ai aussi constaté, quand j'ai eu des ateliers avec des publicitaires qui avaient eu des ratés de communication, eh bien, il y a aussi des parents parmi les publicitaires et parmi les gens de marketing et les clients de ces gens de publicité. Et là, il y a des fois un espace de questionnement très intéressant et très important aussi. Et je dirais qu'il ne faut pas dramatiser la situation, il ne faut pas non plus la minimiser comme c'est souvent le cas actuellement. Puis je trouve qu'il faut développer un savoir-voir qui est différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et c'est nécessaire que les différents acteurs de l'éducation, de la sensibilisation se mettent ensemble, main dans la main, pour avancer. Voilà. Parce qu'on est tous concernés par tout ça. On est tous inconsciemment vraiment bombardé d'images et de prescriptions. Et là-dedans, c'est très difficile de surnager. Et je dirais encore une chose qui me paraît importante dans les ateliers. Quand on fait du décode d'image des stéréotypes et qu'en fait, après, on fait des ateliers de prise de vue et qu'on retouche les photos selon les codes masculins et féminins des médias, parce qu'actuellement c'est plutôt les hommes en noir et blanc et les femmes en couleur, par exemple. C'était pas comme ça dans les années 60. Eh bien, les filles dans les classes et les enfants, eh bien, les filles préfèrent se voir elles aussi en couleur et floutées, et les garçons préfèrent se voir en noir et blanc. Et au début de l'atelier, très souvent, ils me disaient « mais non, on n'est pas influencé ». Or là, ils se préfèrent, eux, dans leur alter ego photographique, ils se préfèrent en noir et blanc pour les garçons et en couleur pour les filles. Donc c'est bien clair et net qu'on est influencé. Et dans les postures aussi, dans les façons d'être, etc., dans notre mode. Voilà.
Très intéressant.
Et ça a d'énormes conséquences quand on va se présenter pour un travail aussi, quand on est ado. Voilà. Et excusez-moi, et encore dans ce qu'on mange, etc. Bref, tout est influencé, on baigne dedans.
On aura bien compris. Un mot peut-être, vraiment en quelques secondes, le projet Mentout, on vous l'avait évoqué tout à l'heure, a fait des campagnes précisément pour essayer de sensibiliser les jeunes. Ça, c'est aussi quelque chose, ça va dans le bon sens.
Ah oui, tout à fait. Simplement, j'espère que c'est suivi d'actes et j'espère qu'on pourra trouver des terrains de collaboration avec des partenaires comme ça.
Eva Sarrault, merci beaucoup d'avoir partagé quelques instants avec nous votre connaissance de l'image et de nous avoir éclairé sur tout ce que les images font dans notre société. On vous souhaite bonne continuation avec votre fondation, la Fondation Images et Société, et puis une bonne journée du côté de Genève.
Merci, et merci aussi de la possibilité que vous nous avez donnée de partager tout ça.
Ça a été un plaisir et c'était très intéressant, je l'imagine aussi pour tous nos auditeurs. Merci beaucoup. On vous remercie donc de votre attention, bien sûr. On vous donne maintenant rendez-vous dans 45 secondes avec les décodeurs et toute l'équipe de Laurence Bizang. Aujourd'hui, il y avait John Azalbacher qui était à la technique, Céline Zuffray, irremplaçable assistante de production de l'émission Tribu, et puis Karine Guillemot qui a choisi la musique. Demain, nous voyagerons dans le futur avec le directeur de la Maison d'ailleurs à Yverdon-les-Bains, Marc Attala. On va se pencher sur le succès planétaire de quelques séries futuristes. Allez, on donne rendez-vous par exemple à tous les fans de Star Wars. On sait qu'ils sont nombreux. Merci à toute l'équipe de la documentation et puis à celle qui fait vivre l'émission sur notre site internet www.rts.ch/tribu. Vous pouvez nous réécouter en tout temps. Puis vous pouvez nous écrire tribu@rts.ch ou encore consulter notre compte Twitter @rts_tribu. À demain.
Infotrafic RTS.